Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 31 juillet, il est 8h30. Au programme de cette matinale, nous serons dans un instant avec Marion pour l'association Chant contre Chant, le festival du documentaire en Cévennes de La Salle qui a lieu en mai par en itinérance sur les Grands Causses et ce sera à partir du jeudi 15 août prochain pour finir à Florac le lundi 19 août. On en parle avec Marion dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, Léo était au festival Via Las à la page. C'était ce week-end. Aujourd'hui, on écoute deux des interviews qu'il en a ramenées. Ce sera tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab. Et aujourd'hui, ce sera les Trash Croûtes qui étaient ce week-end à Via Las. Et on commence par l'édito. Vous êtes bien sur Radio Barthas.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Preuve qu'il n'a pas pour idée de se remettre en cause, le président de la République a invité le jeudi 25 juillet à l'Élysée pour déjeuner un parterre de grands patrons internationaux venus pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques afin de les rassurer sur ses intentions pro-business. Un signal politique clair de la part de celui qui est accusé bien au-delà des rangs de la gauche de faire sécession avec les plus riches. Était présent à l'Elysée Elon Musk, patron du groupe automobile Tesla et soutien de Donald Trump, Jim Kinsey, Coca-Cola, Joseph Tsai, Alibaba, Brian Chesky, Airbnb, Shuzi Chu, TikTok, Lee Ji Young, Samsung et plein d'autres. Et côté français, Bernard Arnault de LVMH, Nicolas Namias de la Banque Populaire Caisse d'Épargne, Alexandre Bompard de Carrefour ou encore Sébastien Bazin, Accor, étaient également conviés. Ce déjeuner peut être apparenté à une sorte de mini Choose Friends du nom de ce forum organisé à Versailles par Emmanuel Macron depuis 2018, où une délégation économique française passe chaque année la brosse à reluire aux investisseurs internationaux pour qu'ils mettent un billet sur l'économie française, moyennant évidemment des avantages fiscaux. Tu m'étonnes que le président n'a certainement pas envie de nommer Première ministre Lucie Castet, pro-service public et qui voudrait enfin taxer les plus grandes fortunes. C'est peine perdue, Macron lui veut continuer de faire tout l'inverse. On a voté et lui s'en fout. On n'est pas rendu, ça c'est sûr.
Qu'est-ce qu'on a fait du soleil ?
Qu'est-ce qu'on a fait du soleil ?
Qu'est-ce qu'on a fait de la pluie ?
Qu'est-ce qu'on a fait de la pluie ?
Qu'est-ce qu'on a fait de toutes ces choses que vous nous aviez promis? Et tous ces champs de bataille,
et tous ces champs de bataille,
à notre époque,
à notre époque.
Qu'est-ce qu'on a fait de toutes ces choses qui n'appartiennent à personne? Est-ce que t'avais déjà capté tout le sang qui a coulé? Est-ce que t'as déjà remarqué que les terres et les mers crevaient? Ah 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 ah. Ouh ouh. Ah ah. Ouh ouh.
Il est rentré dans l'appartement en laissant du sang sur le tapis. Elle a couru sous la table, il avait pigé qu'elle était incapable. Rester la chambre pour se cacher, elle s'est fait descendre, c'était sa destinée.
Annie Turquie, Annie Turquie, du chaos. Annie Turquie, Annie Turquie, du chaos. Annie Turquie, Annie Turquie, du chaos. Annie Turquie, Annie Turquie.
C'est du sang sur le tapis, Ali. T'as couru dans un coin de cachet. Tu t'étais buté, c'était ta destinée.
Ali, tu es ok, Ali, tu es ok, Kawa.
Cathy.
Du 15 au 19 août, Doc Seven, le festival du Doc, part en itinérance sur les Grands Causses. Ce festival se passe à la salle début mai et depuis plus de 20 ans maintenant. Il part maintenant se balader dans nos contrées. Et pour en parler, je suis avec Marion. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes...
Merci à Radio Bartas.
Avec grand plaisir. Vous êtes co-organisatrice du festival, membre du bureau de l'association Chant contre Chant, l'asso qui porte le festival, et animatrice réseau sur 4 départements. Merci d'être avec nous. Pour commencer, comment ça s'est passé le festival au mois de mai? Est-ce que vous êtes content?
Oh ben, un énorme succès. Les 23 printemps du festival ont été vraiment un énorme succès. Bon, néanmoins, on souligne quand même les difficultés, comme toutes les associations et les associations culturelles en particulier, pour boucler quoi les fins de mois, si je puis dire.
Et ouais,
c'est toujours la même chose.
Comme je vous comprends, c'est le cas d'effectivement plein d'assos et plein de festivals. On va évidemment parler de l'itinérance du festival, mais expliquez-nous d'abord comment est née cette idée de festival du documentaire en Cévennes.
Alors, c'est né parce que le réseau Doc Cévennes intervient sur 4 départements à présent, Aveyron, Gard, Lozère et Nord de l'Hérault, avec plus de 30 points de relais, de partenaires, que ce soit des communes ou que ce soit des associations ou des structures, et que nous avons choisi de lancer un partenariat avec Arte, qui était tout à fait partant. Ça va faire, mettons, 3 ans, même si la première année, c'était très, 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 très discret. Il y avait une projection, 2 projections seulement, tandis qu'à partir de l'an passé, nous en avons fait 5. Mmh. Et comme nous sommes des marcheurs dans cette association également, des marcheurs, des randonneurs, pardon, nous avons choisi de faire un festival itinérant, mais qui permet aux randonneurs, s'ils ont envie, de joindre un point à un autre à pied dans la journée.
Ah, ça c'est bon ça, quelle belle idée. Donc du 15 au 19 août, vous partez entre La Tour-sur-Sorgue et Florac. Alors 4 départements, là c'est un peu différent, il n'y a pas le Nord-Hérault, c'est Aveyron, Gard, Larzac et Lozère, c'est bien ça hein?
Oui, mais c'est-à-dire qu'on peut quand même pas obliger les randonneurs à faire 100 km dans la journée. Ça me paraît quand même, surtout par chez nous et avec la chaleur qu'il y a, enfin je sais pas s'il y en aura encore, mais c'est un petit peu compliqué. Donc on a choisi des itinéraires, comme l'an passé d'ailleurs, hein, on descendait dégringolé de Lozère. Mmh. C'est pareil cette année. Et en fait, l'idée, c'est aussi venu, évidemment, des chemins de Stevenson. Mmh. Donc là, c'est les chemins du Doc et non pas ceux de Stevenson, mais c'est dans le même esprit.
Mais quelle belle idée. Alors, on va dire un mot sur chaque film. Hein. On part d'abord dans l'Aveyron, si je ne m'abuse, à La Tour-sur-Sorgue. Ce sera le jeudi 15 août à 21h15. Avec un film ô combien engagé, un documentaire engagé, Ikea, Le Seigneur des Forêts. Là, on commence fort avec une enquête édifiante sur l'enseigne suédoise. C'est bien ça?
C'est tout à fait ça. Notre thématique, c'est à la fois l'environnement, en règle générale, hein, changement climatique, environnement, mais aussi l'itinérance, si je puis dire, des voyageurs qui vont nous entraîner dans plusieurs parties du monde. Mmh. Donc, de toute façon, les films ont été proposés par Arte, puisqu'ils sont produits ou coproduits par Arte. Nous sommes tombés d'accord sur cette programmation. Donc le premier, effectivement, c'est Ikea, le Seigneur des Forêts, sur le développement exponentiel du géant suédois et les abus, évidemment, même scandaleux qui se passent au niveau de la planète. Voilà.
C'est vrai que c'est un des rôles du documentaire de dénoncer certaines pratiques malheureuses, voire désastreuses pour des populations et l'environnement, c'est votre avis?
Oui, bien sûr. Il n'y en a peut-être même pas assez, mais l'intérêt c'est que les 3 des documentaires qu'on présente dénoncent ces pratiques-là. En tout cas, ils les abordent.
On partira ensuite à Nantes dans le Larzac, ce sera le vendredi 16 août à 21h15, la Transamazonica entre ciel et terre. On reste un peu sur la même ligne et cette Amazonie menacée, c'est un euphémisme.
Oui, c'est un documentaire de Sylvestre Camp et Albert Knechtel et il se trouve que le réalisateur franco-brésilien Sylvestre Camp est également Alors, je ne sais pas comment on dit un paramoteur. Enfin, il circule en paramoteur. C'est-à-dire, il circule dans les airs, explorateur des airs. Mmh. Et il souhaitait, son but, c'était de rejoindre, de traverser, enfin de suivre plutôt, cette autoroute Transamazonica qui a été faite le long de la forêt au cœur de la forêt d'Amazonie. Il faut dire que la distance de la Transamazonica, c'est la distance entre Lisbonne et Moscou, par exemple.
C'est la folie.
C'est de la folie, mmh. exactement, et qui a été initiée sous la dictature militaire dans les années 70. Bien, sa construction, évidemment, visait la colonisation de l'Amazonie brésilienne. Vous comprenez les enjeux qui ont pu être, qui sont dans ce film. Mmh. Parce que c'est pas seulement l'environnement, c'est aussi tout ce substrat social et politique qui est derrière. Mmh. Donc, ce Sylvester Camp nous emmène le long de cette route, mais à travers les airs. Mmh. Et il explore par les airs. Mmh. Et il filme depuis le ciel.
Ça, ce sera donc à Nantes le vendredi 16 août. On se rapproche un peu de chez nous. Alors, c'est bien l'annuaisole du Gard, hein, je suppose.
Oui, c'est l'annuaisole du Gard.
Samedi 17 août à 21h15, aux sources de la mer d'Aral, du désert aux glaces. Ça, c'est réalisé par Christophe Reyla, je pense qu'on dit comme ça.
Oui.
Bah là encore, hein, on est sur, entre guillemets, les stigmates de ce que subit notre planète.
Oui. Alors, c'est plus exactement l'écrivain et géographe Cédric Gras, accompagné du réalisateur, qui s'est interrogé sur cette mer d'Aral qui est en voie d'assèchement avancée. Mmh. Donc, il part pour le Kazakhstan et l'Ouzbékistan et il s'interroge, il remonte aux sources pour savoir ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça en rencontrant les diverses populations. Donc cette fois, on n'est plus du tout dans la forêt, on est plutôt dans une espèce de désert, puisque c'est du désert aux glaces, et il remonte vers les montagnes, en traversant les plantations de coton qui sont terribles, etc., etc. Cédric Gras est donc écrivain et géographe. Il a écrit en particulier Alpiniste de Staline, qui a eu le prix Albert Londres en 2020.
C'est fou comme ça donne envie de venir et puis qu'à la fois on sait qu'on aura quand même un petit peu mal à la fin. Est-ce qu'il y a quand même de quoi espérer dans ces documentaires qu'on va voir ?
Si on fait quelque chose, oui. Si on fait rien, non.
C'est clair. Les deux derniers se feront en Lozère, à commencer par Hurle à Parade le dimanche 18 août à 21h15, Vivant parmi les vivants. Et évidemment, quoi de mieux que Hurle à Parade ? Le lieu est bien plus que bien choisi, puisqu'on parle ici du cheval de Przewalski. Et nous, on les connaît plutôt bien ici à Bartas, hein, puisque l'association TAC œuvre pour sa préservation dans nos contrées lozériennes. C'est ce que raconte ce documentaire. Hein. Ça parle vraiment d'une jument de Przewalski.
Oui, Stipa. C'est une jument assez âgée, mettons, qui est donc sauvage. Et Sylvère Petit, qui est quand même connu, comme réalisateur, est allé interviewer, j'allais dire. En tout cas, est allé à la rencontre de cette jument, de ce lieu qui est assez magique. Mais il n'a pas fait que cela. Il a souhaité interroger le rapport que nous, humains, nous avons avec les animaux, et en particulier avec les animaux sauvages. En plus, pas n'importe lesquels, là, puisque ce sont les chevaux de Przewalski. Et il rencontre Baptiste Morisot, qui est un humain, philosophe, qui reste à côté de la famille de Stipa et qui est aidé dans son enquête sur nos interdépendances par les chevaux. Et puis, il rencontre également une autre humaine qui est philosophe, Vinciane Després, qui, elle, est avec sa chienne Alba, qu'elle a récupérée, qu'elle a recueillie, alors que la chienne était en train de mourir. Donc, il propose une introspection, dire, dans ce rapport que nous entretenons avec les animaux. Alors c'est un autre type de voyage, plus intellectuel, mais en même temps, nous sommes sur le cause et c'est absolument magique.
Je vous invite, auditeurs et auditrices, à aller passer la journée avant la projection, hein, le dimanche 18 août. Passez la journée, allez à la rencontre de l'association TAC, allez voir les chevaux et puis après, laissez-vous bercer par le documentaire. Vous avez passé un excellent moment, je vous le garantis. Et ça se terminera ici à Florac, le lundi 19 août à 21h15, Amazonie, les murmures de la forêt. Et là, ça va plus que nous intéresser ici à la radio, puisque si j'ai bien compris, il s'agit de raconter l'histoire d'un audio-naturaliste, Marion.
Tout à fait. Donc le documentaire a été réalisé par Luc Maresco, qui a suivi Marc Namblard, qui est, entre guillemets, chasseur de son, mais qui, lui, préfère se définir comme audio-naturaliste, qui capte et enregistre les sons de la nature, où il est, partout où il est. Donc, et là, il a décidé de partir avec, pour retrouver des jeunes chercheurs au cœur de la jungle amazonienne. Donc, autre voyage, à la fois physique, mais sonore.
Un bon moment en perspective. Est-ce que ce sera encore dans la cour du château cette année ?
Ce sera, tout à fait, ce sera dans la cour du château, puisque le château nous accueille une fois de plus et clôture le festival itinérant Les Chemins du Doc 2024.
Pour finir, Marion, chaque séance sera précédée d'un court-métrage, et c'est dans le cadre d'un dispositif. Quel est-il ?
Alors, ce dispositif, un dispositif régional, qui nous a permis de lancer un appel pour un atelier avec les jeunes. Il y en a 16 adolescents qui sont en ce moment en vacances au centre de loisirs de Lannuéjouls-lès-Perrou, qui se partagent au niveau des dates, et qui travaillent avec Juliette Bourgoin, qui est réalisatrice, sur un petit documentaire de quelques minutes, depuis l'écriture jusqu'au montage. Et la thématique choisie, c'est évidemment l'environnement.
Puis quelle belle idée aussi de donner envie aux jeunes comme ça de s'intéresser aux documentaires et in fine de les réaliser.
Et de les réaliser, ben oui, et puis en plus ils sont absolument passionnés. C'est d'après les retours que j'ai pu avoir, les enfants sont très très contents. Alors ce qu'on espère évidemment, c'est les avoir à chaque, ou au moins à quelques-unes, projections en avant-première avec leurs parents. Ça, j'espère vraiment pouvoir les rencontrer tous à ce moment-là. Et on est très contents et très fiers de pouvoir faire ce travail plus que d'éducation à l'image.
Les Chemins du Doc Grand Causse, cette année, c'est du jeudi 15 août au lundi 19 août. On retrouve toute la prog et les infos sur votre site.
Oui, docseven.org.
Je mets le lien sur notre site dans un instant. Merci beaucoup, Marion.
Merci Ben, merci Radio Barthas.
Merci beaucoup, vous êtes co-organisatrice du festival, membre du bureau L'Asso, chant contre chant, l'asso qui porte le festival, et animatrice réseau sur 4 départements. Excellente journée à vous et à très bientôt.
À vous aussi, et on vous y attend.
Avec plaisir. Allez, dans un instant, on part à Vialas, à la page. On écoute d'abord les Trash Routes, qui jouaient d'ailleurs samedi soir à Vialas.
Jamais savoir ce que ça fait. Ton sang froid comme l'hiver, t'as congelé comme un steak. Il y a une lumière pâle qui brille au fond de Wet. Tu finiras comme l'épave que tu caches derrière ton masque hideux. Tu pensais que ma folie ne pouvait pas gagner. Eh bien regarde-moi, oui je reviens à nouveau. J'ai le goût de l'amour qui n'est pas compliqué. Si tu veux tout savoir, je reste en vie et toi tu disparais. Capte le bien que je suis debout comme je n'ai jamais été. Comme une vraie survivante. Alors tu t'es cassé en me quittant encore. T'as dit des mots méchants pour me faire souffrir. Si notre amour était un cirque, le clown c'est toi et tu le resteras. Capte le bien que je suis debout comme je ne l'ai jamais été. Comme une vraie survivante, je me sens comme une enfant.
Ouais. bien que je suis debout comme je n'ai jamais été. Comme une vraie survivante, je me sens comme une enfant. Encore debout après tout ce temps, ramassant les morceaux de ma vie sans toi dans mon esprit.
Léo était à Vialas à la page, le festival de lecture de Vialas. Il en a ramené des interviews. On écoute d'abord l'interview de la compagnie Apart Théâtre après leur lecture de Va au vin pour une discussion autour de leur spectacle et plus généralement de l'importance de la lecture. Et ce sera ensuite l'interview de Aude au Comte, une conteuse qui faisait des lectures à la plage de la Planchette le samedi après le repas. C'est parti.
Eh bien, moi je suis Marilyn Chaussin-Berger, je suis comédienne et metteuse en scène de la compagnie L'Apart Théâtre. Ce spectacle Va au vin, nous l'avons créé pour un vignoble bordelais en 2014. Et depuis sa naissance, en fait, eh bien, il voyage dans le territoire de la France, chez des vignerons, dans des bars à vin, dans des restaurants, dans des festivals comme celui de Vialas.
Et moi, je suis Yves Flanc, je suis comédien et cofondateur de la compagnie L'Apart Théâtre avec Marilyn. Et donc, L'Apart Théâtre, c'est une compagnie qu'on a créée il y a maintenant une douzaine d'années et qui s'est donné comme objectif de faire du théâtre intime au plus proche des habitants. Donc c'est pour ça qu'on joue très fréquemment chez l'habitant, mais aussi avec des petites jauges, que ce soit dans les lycées, les collèges, les théâtres, les lieux atypiques, la rue, les cours, etc. Voilà.
Si on parle de la lecture du coup Va au vin, c'est quelle partie a été écrite par vous ? Quelle partie est un texte que vous avez repris ?
Ce sont tous des textes que nous avons piochés à droite à gauche. On a fait un espèce de florilège des meilleurs textes que nous avons trouvés. À la fin, effectivement, les petites phrases sur Georges et Georgette, humoristiques, y a des choses qui sont de nous. Et le dernier texte a été écrit par moi.
Reprendre autant de textes, c'est-à-dire connaître beaucoup de textes et donc, du coup beaucoup aimer la lecture, c'est quoi votre rapport à la lecture dans la vie de tous les jours ?
Disons que notre rapport à la lecture en tant que comédienne et metteur en scène, c'est quelque chose qu'on pratique tout le temps. On pratique de la lecture pour trouver le texte qui va nous faire, sur lequel on va travailler durant l'année. Donc déjà, dans le travail, la lecture est primordiale parce qu'on peut passer vraiment beaucoup de temps à travailler sur la lecture de texte quand on veut monter un spectacle, par exemple, historique, sur 14-18 ou sur la Deuxième Guerre mondiale. Et après, dans le quotidien, au niveau personnel, oui, moi je suis une grande lectrice aussi.
Ah oui, moi, on est aussi écrivain et écrivaine, en dehors d'être comédien et comédienne. Et comme on le dit souvent, les écrivains sont des grands lecteurs. C'est-à-dire que pour écrire, il faut avoir lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai un rapport très très proche à la lecture. Tous les jours, je lis beaucoup de choses quand j'ai le temps, quand je prends le temps de le faire. Et la lecture, c'est aussi un art très particulier qui est différent de celui du théâtre, c'est-à-dire du théâtre sans support, parce que il fait moins appel à la mémoire, mais il doit faire plus appel à l'attention du public, puisqu'on a un support, on doit jouer à la fois avec le public et avec le support. Donc parfois c'est plus facile, parfois c'est plus difficile.
Et aujourd'hui, à une époque où on lit de moins en moins, où les gens en général lisent de moins en moins, est-ce que la lecture est d'autant plus importante ?
Je pense que oui, et surtout dès le plus jeune âge. D'ailleurs, dans les écoles, maintenant, je crois qu'il y a le quart d'heure, je ne sais pas comment ça s'appelle, le quart d'heure de lecture qui initie les tout-petits à soit la poésie, soit la littérature de jeunes, de jeunesse. Et c'est très important parce que moi, je pense que c'est un gage d'émancipation, le fait de lire et d'avoir un imaginaire qui rencontre les imaginaires d'autres gens qui soit vivent dans le même pays que nous, soit vivent ailleurs, dans un autre univers. Et cet autre univers est communiqué aux enfants en particulier s'ils se plongent dans la lecture. Et si les enfants ont lu dans leur jeune âge, à mon avis, ils deviennent des lecteurs et des lectrices quand ils sont adultes.
Moi, je pense qu'il y a une période où, en fait, ils perdent la lecture. Mais déjà, mais tout petit jusqu'à, on va dire, l'adolescence, moi, je vois les enfants lire. Je vois les enfants lire avec leurs parents. Je vois les enfants lire dans des lieux un peu insolites, ou à la plage, ou à la campagne, etc. C'est après, à l'adolescence, où là, ça se perd. Mais je pense qu'après, ça revient, parce que, ben, justement, il y aura eu une écoute de lecture comme ceci. Il y aura eu un professeur qui va leur lire un texte et puis qui tout d'un coup, oui, c'est ça, à travers ça, je vois ça, 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 et ils vont se remettre à lire. Donc je trouve que c'est positif.
Je vois des gens autour de moi, par exemple, qui, eux, lisent de leur côté dans leur coin, mais quand on leur présente un festival de lecture, ils ne vont pas forcément y aller de peur de juste s'attendre à quelqu'un qui est en train de lire un livre devant eux. Qu'est-ce qui pourrait être fait, je ne sais pas, dans un festival de lecture, d'après vous, pour... plus intéresser, mobiliser des gens
Qu'est-ce qui pourrait être fait? Moi, je pense que les gens qui viennent déjà sont convaincus. Alors, pour faire venir un public qui n'a pas l'habitude de ce genre de présentation, peut-être faut-il éveiller leur curiosité en leur parlant de l'auteur ou de l'autrice du texte qu'on va lire, et que parfois ce sont des lectures qui ne sont pas simplement à la table, mais comme aujourd'hui, scénographiées. C'est-à-dire qu'il faut mettre, du mouvement, il faut mettre du corps, il faut mettre des objets, des accessoires, et donc leur indiquer que ça n'est pas simplement un exercice scolaire, quoi, livresque à la table.
Je suis d'accord totalement avec Yves sur le fait de scénographier, disons pour amener les adolescents à la lecture, il faut scénographier, il faut que ça vive. Si ça ne vit pas, effectivement, ils vont trouver que la lecture est plombante, que la lecture est inintéressante, ennuyeuse. Mais nous, on a toujours eu de bons échos sur nos lectures, parce que par exemple, la lecture de 14-18 qu'on fait dans les lycées, il n'y a aucun ennui. Les élèves ont envie après d'acheter les livres sur Giono, les livres sur les poilus, etc. Voilà, c'est rendre vivant une lecture.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Je m'appelle Aude. On me connaît sous l'appellation Aude au Conte. Et aujourd'hui, dans le cadre de Vialas à la page, j'ai lu des histoires, des contes à se rassasier. Des contes qui ne parlaient en fait que de ce qu'on mange. Voilà, des contes qui nous viennent de notre patrimoine, du patrimoine d'autres pays, des contes populaires.
Tu as fait directement un parallèle en début en disant que tu n'étais pas une lectrice mais une conteuse. C'est quoi la différence entre une lectrice et une conteuse ?
Je trouve, moi, plus de liberté dans le personnage du conteur. La lecture, on est vraiment attaché au mot, à ce qui s'est dit, à l'auteur. Et on est, du coup, dans un contexte visuel sur papier et non pas en approche et en accroche avec le public. Et moi, je suis une conteuse gesticulée, c'est-à-dire que j'interprète les contes, je les mime, je les bruite, et j'ai besoin du retour du public. C'est très important pour moi. Et le fait de lire me coupe de ça, en fait. Plus la liberté dans le conte, d'adapter le texte au public qui est présent, aussi bien d'un point de vue longueur que vocabulaire, que clin d'œil qu'on pourrait faire.
Et là, tu lisais du coup, mais tu étais quand même active et tu t'adaptais au public aussi, mais ça veut dire que ta performance habituellement est au-delà de ce que tu viens de nous présenter ?
C'est fort, hein ? Mais oui. Ouais, je suis beaucoup plus à l'aise quand je peux compter. Ouais, je me suis sentie frustrée. C'est pas tant limité que frustrée. Donc oui, j'ai quand même interprété la lecture parce que ça me semble important. Et puis c'est comme ça aussi, je pense, qu'on transmet l'envie de lire. C'est de se dire, mais même si tu le lis dans ta tête, tu peux voir les images et tu peux interpréter les expressions, les façons de le dire, le jeu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. C'est un dessin animé, quoi, mais écrit.
Ça se ressentait quand tu lisais que tu les connaissais, ces textes, que tu connaissais les contes, que tu les savais sur les bouts des doigts. Ça fait combien de temps que tu fais ça ?
Boudi ! Comme on dit dans les Cévennes. J'ai commencé en 2008. 15 ans, c'est ça ? 15-16 ans. Ça doit faire 15-16 ans, voilà. Ouais. Alors, oui, il y a certains des contes que j'ai racontés là aujourd'hui que je connais sur le bout des doigts et que je raconte déjà depuis fort longtemps. Mais j'ai quand même, pour certains d'entre eux, pas tous, t'as vu, j'ai triché. Par exemple, pour le Pépé a planté un navet, j'ai absolument pas lu. Je me suis servi de la page comme si c'était le navet, j'ai absolument pas lu, je l'ai interprété. Via la salle à page, ils sont au jus que je dérape régulièrement, c'est livré avec. Et après, ben oui, ben je, c'était une gageure. Je me suis pliée au jeu de lire, même si certains d'entre eux, parce que je dois avouer qu'il y en a que je ne raconte jamais, que je vous ai lu aujourd'hui. Mais comme je suis bonne élève, j'avais bossé avant.
Je me demandais, c'est quoi à tes yeux l'importance de la lecture, l'importance du livre, l'importance de partager des contes ? Est-ce que ça a toujours la même importance qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans ?
Même peut-être encore plus important aujourd'hui quand on voit où va le monde. En fait, qui c'est qui disait la connaissance, c'est la liberté. Et la connaissance, elle peut passer... Bon, aujourd'hui, on a des médias nouveaux, tout ça, mais elle passe avant tout par la lecture, par l'instruction, quoi. Voilà. Il y a une autre réflexion qu'on me fait assez souvent, d'ailleurs, surtout les grands-parents qui viennent me voir quand je compte et qui me disent « C'était très bien, on a beaucoup aimé, mais le petit, je suis pas sûre qu'il ait compris tous les mots que vous avez dit. » Et j'aurais tort que toujours que je me refuse, moi, à simplifier mon langage. On perd énormément de notre langue, c'est une richesse, c'est un patrimoine. On a énormément de synonymes qui, malgré tout, ont des petites significations sensiblement différentes. Et je dis non, je me refuse à nettoyer ça, à rabaisser ça. De toute façon, les enfants ont compris l'histoire et dans le contexte, ils ont compris le mot. Et un jour, plus tard, ce mot va à nouveau résonner à leurs oreilles et ça fera tilt dans leur cerveau.
Il y aurait un besoin aujourd'hui d'adapter des contes qui ont 50, 100 ans ? Est-ce qu'ils sont encore d'actualité ? Est-ce que tous les contes sont encore d'actualité ? Il y en a certains, quand tu tombes dessus, tu dis oui, non, lui, non, pas aujourd'hui, plus aujourd'hui.
Non, en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, les contes, pour la plupart d'entre eux, hein, pas tous, mais pour la plupart d'entre eux, bon, aujourd'hui, on était peut-être un peu ciblés sur des contes un peu du pourquoi les choses sont comme elles sont, donc... C'est intemporel, de toute façon. Mais après, même dans les contes, on trouve toujours une philosophie, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Philosophie qui s'adresse aux enfants, mais dans le même conte, on peut trouver une philosophie qui s'adresse aux adultes. Et cette philosophie, elle ne change pas. C'est le fondement même de notre humanité, de ce qui devrait être notre humanité. Avoir un certain sens du respect, de la confiance, du savoir-vivre, du savoir-être. Et tout ça, les contes, encore aujourd'hui, même s'ils sont millénaires, hein, il y a certains contes, ils sont plus que centenaires, transportent, voyagent toujours avec ces philosophies. Donc oui, ils sont absolument purement d'actualité, et beaucoup de gens le ressentent d'ailleurs. De sources sûres que j'organise par moi-même, on peut me retrouver tous les mardis soirs de l'été jusqu'à fin août, jusqu'au dernier mardi d'août, à 21h, au théâtre de Verdure de Chamborigo, c'est dans le Gard. Là, j'interprète en alternance une semaine sur deux répertoires. Le premier s'appelle Gare aux contes. Ce sont que des contes fantastiques du Gard. Il y en a tellement raconté, je ne peux pas tout dire dans la soirée. Donc c'est le public qui tire au sort les histoires qu'on raconte ce soir-là. Si bien qu'il n'y a jamais deux fois la même soirée. Et puis les jours pairs, les mardis pairs, hein, ça marche en, en date paire et impaire. Les dates paires, je joue Fauntastique. C'est une conférence comptée où je mets en évidence les traces et indices laissés par les animaux fantastiques dans toute l'Occitanie, cette fois. Voilà. Et puis jusqu'au 12 août, on peut me retrouver les lundis matins à 10h30 au camping du Moulin du Luèche à Peyremal, toujours dans le Gard, où là c'est un spectacle qui s'adresse au jeune public, 3-103 ans, et qui s'appelle « Pourquoi ?» Et j'ai pas besoin d'expliquer « Pourquoi ?» Et voilà.
Merci à toi et peut-être à une prochaine dans les Cévennes.
Mais avec grand plaisir, moi c'est mon métier passion, donc à chaque fois que je peux raconter des histoires, c'est un échange, c'est vraiment un échange, il y a quelque chose qui passe avec le public, tu vois, il y a du répondant, quand il y a du répondant, je surfe dessus, c'est vraiment, ouais, c'est un moment communautaire, un moment important, merci.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi. Restez bien sur Barthas, on n'y est pas trop mal. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous. Ciao.
J'ai besoin d'amour et d'alléger mon esprit. J'ai besoin de trouver quelqu'un que je puisse appeler chérie. Mais maman me dit, ne presse pas l'amour. Si facile, et j'attends tant.